La musique.
Caravanana maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Inoubliable.
Vive mon grand galant!
Vive le soleil!
Vive les oreilles!
Libre!
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs sur internet via le site radiolibertaire.net, je crois, je ne sais plus trop. Enfin, vous tapez Radio Libertaire sur votre moteur de recherche. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes d'expression curieuses. Et aujourd'hui, on accueille un musicien singulier, Patrice Soletti. Bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on vient d'écouter ? Qu'est-ce que c'était ?
Ah, c'est un duo qui date maintenant de quelques années, que j'avais avec Didier Achour, ouais. Un guitariste qui est connu dans le milieu de la musique contemporaine minimaliste, puisque c'est un peu. Il dirige un ensemble qui s'appelle Dédalus.
Voilà, ouais.
Avec lequel il défend la musique minimaliste américaine essentiellement.
Bah, je crois qu'on en a parlé avec Deborah Walker,
oui,
à propos de Moondog, je crois. Thierry Madieu également.
Oui, voilà. Ouais, tous deux font partie de l'ensemble des Dalus. Et voilà, c'est un duo de guitare électrique improvisée, entièrement improvisée.
D'accord. Montpelliérain, peut-être, non ?
Didier habite à Montpellier,
oui,
effectivement.
Ça. Et toi,
comme moi.
Oui, voilà. Ouais. Peut-être qu'on reviendra après sur cette. Il y a une espèce d'effervescence là-bas, à Montpellier, puis à Marseille aussi, je pense, à d'autres structures. Mais d'abord, peut-être, ce qui serait bien, c'est de te présenter, présenter ton parcours. Est-ce que tu as appris la musique au conservatoire et ton parcours, ton éducation musicale ?
Oui. Je suis plutôt autodidacte. Même si. À un moment de mon parcours, j'ai rejoint un quatrième cycle au conservatoire d'Évry, en région parisienne. En gros, mon parcours, ça a été... une fois que j'ai eu mon bac, je suis monté à Paris pour apprendre... Au départ, je voulais apprendre le jazz.
Ouais.
Et très rapidement, comme ça, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis rendu compte que le jazz, c'était pas forcément ma musique, l'idiome dans lequel je pouvais m'exprimer pleinement. Pour des tas de raisons, d'une part parce que socialement c'est pas une musique, j'étais pas en contact direct avec les grands maîtres de façon orale, donc soit il fallait aller jusqu'au bout, traverser l'Atlantique et puis aller se baigner là-dedans, soit chercher d'autres voies, et la voie qui était la mienne à ce moment-là, c'était la musique contemporaine française.
Ah,
et,
oui,
et entre les deux, heureusement, il y a eu les Instants Chavirés, qui ont été pour moi une sorte de révélateur, quoi, une plaque tournante qui m'a ouvert sur des musiques plus aventureuses. Et à partir de là, j'ai muté petit à petit.
Oui, c'était ma question suivante. En fait, comment t'es arrivé, parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein, c'est pas le parcours de tout le monde, aux musiques singulières, improvisées, aventureuses, tu dis bizarres peut-être pour la plupart des gens. Mm-hmm. Donc c'est par le biais des Instants Chavirés.
Disons que c'est là que j'ai pu entendre à cette époque-là des musiciens comme Noël Achouté, Marc Ducré. Bon, je vais parler que des guitaristes, mais pas que. Il y avait à cette époque-là, j'ai pu me lier d'amitié avec des gens comme Guillaume Orti, Gilles Coronado. Mmh. Voilà, donc tout ça entraînant une sorte d'émulation. J'allais voir beaucoup de concerts aux Instants Chavirés. Et évidemment, je comprenais pas tout. Au départ, mais je sentais bien que là il y avait en tout cas une sorte de fraternité d'esprit où tout était permis, où justement ce qui était intéressant c'est d'aller creuser à l'intérieur du son et pas se contenter seulement de la forme et de quelque chose qui soit caressant dans le sens du poil.
Ouais, bien sûr. Mais alors, plus jeune, t'écoutais du rock, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont venus à ce genre de musique par le biais par exemple du rock progressif.
Ah, bien sûr, oui, j'en ai écouté, mais. Disons que dans mon adolescence, j'étais AC/DC, Trust, voilà, ces choses-là, mais pas du tout de la musique expérimentale pour le coup, hein, c'était vraiment mainstream dans le sens où c'était il y avait des lignes comme ça, bon, c'est les codes des ados. Hein,
les grands classiques.
C'est les grands classiques, après Led Zepp, toutes ces choses-là, un petit peu dans plein de Genesis, et puis par contre j'ai eu comme ça vers 16-17 ans, je me suis carrément tourné vers le jazz. J'écoutais quasiment plus que ça.
D'accord, ouais.
Et la grande révélation, ça a été un concert de Miles Davis aux Arènes de Nîmes en 87.
D'accord, ouais.
Où là, je me suis dit, tiens, la musique, c'est plus que se faire plaisir sur le manche avec les copains. C'est aussi... ça remue beaucoup de choses.
Ouais, ouais. Alors, t'as souhaité qu'on écoute des musiques qui t'ont influencé. Alors moi, je suis ravi parce que ça nous permet d'écouter Fred Frith. Et justement, par rapport à ma question précédente, qu'est-ce qui t'a touché, enfin, par quel biais tu as abordé Fred Frith ? Parce que lui, il a tellement de choses différentes que...
Oui, oui. Alors, c'est très drôle, Fred Frith, parce que c'est une influence invisible, d'une certaine façon. Parce que quand j'ai découvert Fred Frith, je l'ai découvert bien après que je me sois engagé dans la voie de l'improvisation, de la guitare préparée, etc. Et donc, c'est vraiment drôle de voir à quel point son empreinte avait était vraiment passée sur beaucoup de ouais. personnes, et d'une ouais. certaine façon je n'avais eu une sorte de reflet
sans connaître
directement. Alors je suis pas resté des années, mais disons que pendant un an ou deux j'ai tripatouillé un petit peu de mon côté avec et je l'ai découvert alors que je pratiquais déjà de la musique on va dire bruitiste, improvisée avec la guitare préparée ouais. avec toute une recherche d'objets détournés qu'on met dans les corps, etc. Quand j'ai découvert son travail, je me suis rendu compte à quel point les voies qu'il avait ouvertes m'avaient par ricochet déjà traversé.
Mais donc c'est par ses guitares solo, par exemple, que tu as connu, parce que moi je pensais à Yann Wico, c'est pour ça que je parlais de rock progressif. Là c'est quand même de la musique déjà très très compliquée, quoi. Il a fait des trucs plus rock, Skeleton Crew avec Tom Cora. Il y a plein de façons de l'aborder, quoi.
Il a fait beaucoup de choses, effectivement. Moi, je l'ai. En fait, le premier rapport que j'ai eu, c'est justement à travers le solo.
Ah oui, d'accord.
C'était à travers le solo. Ouais, ouais. Et puis, à partir de là, toute cette discographie vraiment impressionnante.
Ouais. Bah là, on va peut-être écouter un truc complètement différent. Enfin, je crois qu'on n'a jamais écouté cette formation-là dans notre émission.
Oui, alors c'est un album de Fred Frith que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Death Ambient. Et c'est un trio avec Kato Hideki et Ekue Mori.
D'accord. Thank you. Voilà, Radio Libertaire, l'émission Les Oreilles Libres, avec aujourd'hui Patrice Soletti, guitariste. Donc on vient d'écouter un guitariste qui t'a influencé,
Bah, il n'est pas le seul, mais...
Fred Frith. Alors, moi, j'aimerais te poser des questions par rapport au jeu de guitare. Quand on commence à explorer des jeux non conventionnels, comme tu parlais tout à l'heure, on peut dire, comment tu as dit sur table ou...
Ouais, guitare préparée.
Guitare préparée, ouais, voilà. Ou...
Référence un peu au piano de John Cage.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui motive là-dedans ? Est-ce que c'est, par exemple, d'aller dans une direction qu'on n'a pas apprise, justement ?
Ah ben complètement, ouais, c'est le plaisir de la découverte. Et puis je sais que ça s'est situé à une époque, quand je parlais tout à l'heure, donc la fin de mes études jazz, donc cet idiome-là, très basé sur les gammes, la mélodie, le contour mélodique, le phrasé, bah, c'était de vouloir faire un petit peu table rase. J'ai fait ma petite révolution personnelle, et donc c'est un moyen aussi d'être en rupture avec le... c'est pas une rupture violente, c'est juste mettre de côté l'aspect mélodique, les fréquences pures des notes, pour aller vers des sons plus complexes, et donc qui entraînent aussi avoir un autre mode de pensée.
Ouais. On parlait en antenne de Fred Frith et du fait que à l'époque c'était très novateur et tout ça, mais maintenant on a vu pas mal de guitaristes faire ce qui nous faisait marrer dans Step Across the Border avec ses biscuits qu'il écrasait sur une guitare, bon voilà tout. Et justement, une des questions que je me pose, moi, c'est est-ce que tout n'a pas été fait dans ce domaine-là? Et autre question parallèle, qu'est-ce qui pourrait apporter du nouveau? Voilà, toi, t'es un musicien, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te dit quel genre de technique? Est-ce que c'est l'électronique, par exemple? Je vois qu'il y en a pas mal. Là.
C'est une très très bonne question. Je pense que c'est plus dans la forme, finalement, que dans le fait d'écraser un biscuit, d'utiliser un objet. Finalement, ça joue aussi sur l'aspect théâtral de la chose. C'est-à-dire que quand on est en public et que le public nous voit sortir un bout de ficelle, une cuillère, etc. Donc il y a tout un imaginaire qui se met en branle. Et quand en plus ça produit un son qui n'a rien à voir avec l'objet, ça crée toute une ambiance. Après, au-delà de ça, ce qui fait la différence pour moi, à mon avis, c'est l'aspect compositionnel de l'improvisation, ou pas improvisation d'ailleurs, ça peut être tout à fait écrit. C'est l'idée, finalement, le geste général, qu'est-ce que ça dégage, à quel moment on est finalement intéressé, captivé par ce qui est en train de se passer, soit par la vibration, soit par le visuel, soit la combinaison des deux, soit par la forme, soit par la qualité des timbres, voilà.
Est-ce que tu as essayer un truc, par exemple, un accordage différent sur ta guitare?
Ah oui, beaucoup, oui.
Ouais. Ouais. Est-ce que tu fais
des désaccordages, plutôt.
Oui.
Mais... Ça aussi, c'est de partir avec une guitare qui n'est pas du tout calibrée. Ouais. Ça ouvre aussi des possibilités sonores. Donc on joue avec ce qu'offre l'instrument à ce moment-là.
Mais est-ce que c'est, par exemple, tu t'es inventé un accordage que tu répètes toujours, c'est le même, ou tu désaccordes au pif et...
Non, je parlais, effectivement... Un décalibrage complet, c'est complètement au pif, on ne sait pas du tout, les cordes sont extrêmement détendues, elles ne correspondent pas aux bonnes hauteurs, puis ensuite c'est en les tendant, justement peut-être en glissant des objets, par exemple des baguettes de bois à l'intérieur, ça recrée un peu comme le coteau, finalement. Okay. Voilà, ça détourne complètement l'instrument, ça l'amène ailleurs.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut apprendre ça, ou est-ce qu'il y a un intérêt? Oui, je pense à ce qu'on va écouter là maintenant, d'Eric Bailey. Je pense qu'il a écrit un livre assez théorique que je connais pas d'ailleurs.
Très très bon livre.
Ouais. C'est vrai, ouais.
C'est de la réflexion. Est-ce que c'est théorique? Oui, ça rejoint la théorie, mais c'est surtout la réflexion d'un grand, très très grand, un grand maître, un grand praticien de ce genre de musique.
Et donc c'est son, par exemple, lui, c'est son bouquin qui t'a influencé, ou c'est de l'écouter, son jeu?
C'est l'écouter. La première fois que j'ai entendu d'Eric Bailey, j'étais subjugué par l'énergie qui se dégageait, c'est-à-dire que c'est dès qu'une note est émise, je suis immédiatement capté.
Ah oui.
Et puis si on analyse, c'est pas lié à une complexité, c'est vraiment lié à sa façon de faire sonner l'instrument. C'est toujours surprenant. Et justement, quand tu parlais d'innovation, là, le morceau que j'ai choisi d'amener aujourd'hui, c'est tiré de son disque de standard en solo.
Ouais.
Là, c'est un très très grand standard, une très très belle ballade, belle entre guillemets, qui s'appelle Laura. Et c'est un traitement à la guitare acoustique. Donc là, on voit tout l'art de son jeu et justement la combinaison de l'aspect mélodique et de l'aspect brutiste et puis de l'harmonie des frottements qu'il peut y avoir. D'ailleurs, dans son bouquin, à un moment donné, il parle de ça. Il semblerait que finalement, ce qui semble ne jamais s'épuiser après donc toute sa carrière, là, c'est justement la mélodie pure sur la gamme. C'est ce qui lui semble le plus inépuisable.
D'accord. On écoute Laura de Derek Bailey. C'était Derek Bailey, Laura. Alors, Patrice Soletti, je voulais t'interroger sur, puisqu'on va rester dans la guitare acoustique, tu as travaillé sur Chai Tombly, le peintre américain. Mm-hmm. J'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a pris, en fait, comment t'es arrivé à faire ça, quoi.
Ah ben là, pour le coup, c'est un vrai choc artistique pour le... Pour la petite histoire, l'anecdote, c'est que je me baladais dans un musée et je suis tombé face à une toile et je me suis dit, mais cette toile, je me suis rien dit en fait. Je suis resté devant à la regarder et puis c'était tout un monde, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et donc je commençais à me rapprocher, etc. J'avais jamais vu ça, très honnêtement. Et je suis allé photographier le nom, l'étiquette, Chai Tombly. Et je suis allé voir son travail et... En fin de compte, ce qui m'a vraiment touché dans le travail, c'est que on sent le geste sur la toile. Mmh. C'est vraiment une sorte de gribouillage, d'une certaine façon. Mmh. Enfin, ça peut paraître très péjoratif, mais ça paraît très, très, comme ça, très simple, très, très enfantin. En fait, c'est très, très profond, évidemment. C'est un vrai travail extraordinaire. Et ça ressemblait finalement au geste que je pouvais faire sur la guitare pour justement sortir des sons qui ne sont pas des sons naturels, enfin, qui ne sont pas des notes sur les gratter, sur les frotter, les tourner, les lancer de doigts. Etc. Donc, ça, je peux en parler aujourd'hui, mais sur le coup, je ne pensais pas du tout à ça. J'avais ça en tête. Voilà. Puis je change de pièce, et puis il y avait d'autres toiles encore différentes avec de la couleur. Travail au crayon, c'était très, 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 très étonnant pour moi. Et puis, quelques semaines plus tard, je prends ma guitare chez moi, ça pour travailler, et puis, puis je me mets à improviser. Et j'ai senti tout à coup qu'il y avait ce rapport avec, enfin, un souvenir de cette toile, et je me suis dit, bah tiens, là, il y a quelque chose à voir. J'ai tout de suite mis mon MP3 en marche, j'ai enregistré 5-10 minutes comme ça d'improvisation. Et à partir de là, je me suis dit, bah là, il y a quelque chose à creuser sur cette idée de parallèle entre les gestes du peintre et le geste du musicien qui produisent non pas une trace visible, mais une trace audible.
Oui.
Et voilà, c'est parti de là, donc je me suis mis à creuser là-dessus et puis à m'inspirer d'un certain nombre de ces toiles.
Oui, c'est-à-dire que tu travailles, est-ce que par exemple, je sais pas moi, c'est l'idée de travailler sur une toile, tu fais un morceau, tu regardes une toile ou non, c'est plus...
C'est plutôt en résonance.
Ouais, voilà.
C'est-à-dire que quand je le joue en public, je projette d'abord quelques images du travail de Simon Bly qui tourne en boucle. Je laisse 10-15 minutes ensuite je m'installe et j'arrête la projection. Après, le concert commence.
Ah,
ça se fait sans projection.
Ouais.
Mais le public comme ça s'imprègne la rétine des différentes
sans musique.
Sans musique, oui.
Ah ouais, d'accord.
Et ensuite moi j'improvise totalement et c'est les gestes, il y a peut-être un souvenir du geste que je suis en train de faire sur une toile. Et comme il a vraiment des périodes très très larges, c'est vraiment très bien parce qu'on peut vraiment aller dans le bruit, dans le geste pur, dans la spontanéité, et puis aussi dans des choses plus construites, plus on va dire lyriques, parce qu'il a fait aussi des fleurs. Donc voilà, donc du coup, c'est finalement, ça, pour moi, ça me fait comme une sorte de carte sur laquelle je peux me promener quand j'improvise, et je ne suis jamais perdu, j'ai toujours une île... à rejoindre.
C'est pas un des peintres américains les plus connus, hein, mais enfin moi j'aime beaucoup. En tout cas, j'étais surpris de voir que tu travailles là-dessus. Bah là, ça va être le contraire des concerts. On va entendre le son, mais on va pas voir les tableaux puisqu'on est à la radio. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au guitariste Patrice Soletti. On vient d'écouter, le titre c'est
Listen to Simon Blee, numéro 1. Ouais. C'était une séance, enfin, c'est enregistré pendant une séance de travail de autour travail, de, voilà, de cette thématique.
Ouais. Donc tu vas, t'as un projet de disque là-dessus ?
Oui, oui, ça fait un an que c'est dans un tiroir, il faut que je trouve le temps de le creuser. Et ouais, de le réaliser surtout.
Autour de ce peintre, donc Triton Lee qui est mort il y a 12 ans, je crois, hein, c'est ouais, assez récent. J'avais une question par rapport à... Parce que tu joues de la guitare classique, on vient de l'entendre, et moi je t'avais vu chez notre excellente amie Anne Montaron, mm-hmm, jouer en duo avec Paul Dutton, mm-hmm, également de la guitare classique. Mais tu joues de la guitare électrique aussi, et on va en
ouais,
parler.
Plutôt même.
Non, ouais, plus.
Oui, beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. La guitare classique, en fait, je l'ai toujours travaillée, mais là, c'est à l'occasion de ce travail avec Simon Blee. En fin de compte, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est quand il y a cette chose qui est venue avec la guitare classique. C'est la première fois, finalement, où j'ai senti que la guitare classique pouvait être un médium que je pouvais utiliser aussi en public. Jusqu'à présent, c'était vraiment dans l'intimité, ou très anecdotique, ou alors électroacoustique, mais ça, c'est encore autre chose.
Donc, est-ce que dans tes groupes, parce qu'on va parler là, bon, il est quand même temps de parler de tes divers projets, est-ce que tu fais un mix des deux ? Tu peux, dans telle formation, tu peux jouer de la guitare électrique, de la guitare classique, ou t'as, dans tel projet, tu joues tel instrument ?
Ouais, c'est plutôt comme ça, ouais, mais c'est pas non plus totalement vrai, parce qu'avec l'ensemble Émir, ensemble de musiciens improvisateurs en résidence, c'est un collectif qui s'est constitué autour de Bar Philips. Ouais. Et qui est devenue maintenant la compagnie Bar Philips. Enfin, ce sont deux entités, mais la compagnie Bar Philips, disons, englobe ce collectif. Mmh. Et dans cet ensemble-là, qui est essentiellement acoustique, j'utilise les deux instruments.
Ouais. Mais
donc, c'est le seul cas.
Voilà, c'est le cas. Est-ce que tu peux nous dire les diverses formations dans lesquelles tu joues ?
Alors, donc l'ensemble Bar Philips. Ouais. Il y a l'Electric Pop Art Ensemble, ouais, qui est donc un projet que je porte depuis maintenant 4-5 ans. Mmh. Et c'est l'idée de créer une sorte d'orchestre électrique, pas une sorte, un orchestre électrique performatif. Dans le sens, c'est l'idée de créer une sorte d'ensemble d'artistes disponibles qui utilisent le média électrique et qui sont disponibles à soit monter un répertoire que j'aurais composé ou à se réunir autour d'un projet où la question est d'improviser ensemble. Et tout un tas de combinaisons possibles et imaginables aussi avec l'idée d'essayer de contaminer différents endroits avec les musiques, on va dire, singulières. Et notamment avec les tripots partent ensemble, c'est l'idée d'aller contaminer tout ce qu'on appelle musique actuelle, rock, voilà, ces choses-là. Et musique actuelle, je le mets bien entre guillemets, parce que les choix esthétiques qui sont très, très souvent mis dans les salles de musique actuelle.
Les smacks.
C'est pas forcément des musiques très aventureuses, c'est plutôt calqué sur l'industrie du disque. Donc c'était l'idée d'essayer d'un petit peu contaminer, évidemment à la marge, aussi ce public-là.
Ah oui, d'accord. Ah, c'est super.
Ouais, je sais pas si on y arrive, mais c'est en tout cas, c'est très laborieux. Mais...
Donc, alors, il y a Émir, Electric Pop Art Ensemble. Et est-ce qu'il y a d'autres choses, il me semble, hein? Déviation, j'ai vu.
Déviation, ah oui, des déviations. Alors, c'est tout à fait autre chose. Là, c'est un ensemble, on va dire, de musique mixte contemporaine. Donc, c'est un ensemble à trois têtes. Avec Ludovic Nico, qui est en fait l'initiateur de ce projet, qui est violoniste à l'Orchestre National de Montpellier, et qui a proposé donc de revisiter d'une certaine façon le répertoire classique, d'une façon singulière. La deuxième personne qui est avec nous, c'est Julien Guillama, qui lui possède un acousmonium, donc c'est un ensemble de haut-parleurs, donc lui il est vraiment spécialisé dans la musique acousmatique.
Ah oui, ouais.
Et à nous trois, on a monté un répertoire qui continue d'évoluer, qu'on a pu produire donc pour le festival Figure du siècle à Montpellier. Mmh. Et dans ce répertoire, il y avait, c'était composite, il y avait une pièce à moi, il y avait des pièces de musique acousmatique pure, et il y avait une commande de compositeur qui a été faite et qu'on a créée donc pour l'occasion, Jérôme Berthelon, ouais, qui a créé une pièce. Et dans ce projet, la commande était particulière parce que Ludovic avait aussi fait commander par l'orchestre un instrument qui s'est appelé Laoula, un instrument électronique qui est en fait un ensemble d'interfaces manipulables par n'importe qui, entre guillemets, c'est-à-dire même les amateurs, les gens qui ne sont pas musiciens peuvent les manipuler. Et donc il y a une partition à tiroir pour une personne qui ne serait pas musicienne, ouais, au sens commun. Et donc cette pièce-là, qui s'appelle toujours d'ailleurs Sandboxes, utilise donc un amateur, on va l'appeler comme ça, qui manipule les interfaces selon des codes qui sont déterminés, et violon et guitare électrique qui eux ont des partitions et qui interagissent avec tout ça. Ouais. Donc on continue à développer là pour le coup une musique écrite et qui utilise aussi le média de chacun de nous et réinvesti d'une façon collective. Mmh. Et ça donne des drôles de mélange, on aime bien ça.
Tu sembles tu mets beaucoup de guillemets sur le terme d'amateur.
Oui, parce qu'il peut y avoir un petit côté péjoratif que je voudrais surtout pas mettre dans ma voix.
Ouais, ouais. Mais est-ce que ça sous-entend que pour toi, n'importe qui, alors comme Jean Dubuffet parlait du l'homme du commun, mm-hmm, tu vois, l'homme du commun à l'ouvrage, hein, pourrait être musicien. Bah oui. Un musicien pas dans le sens professionnel, mais produire de la musique.
Bah bien sûr, fondamentalement oui. Dès qu'on a deux oreilles et deux bras, même sans bras, si on a une voix, ouais, je pense qu'il suffit d'assez entre les oreilles que ça se passe. Pas ailleurs.
Oui, je suis bien d'accord. Ouais. Alors qu'est-ce que je voulais te demander, peut-être on va Déviation et Electric Pop Art Ensemble, il me semble, font partie d'un collectif, l'Oreille Électrique. Est-ce que tu peux en dire deux mots de ça?
Alors l'Oreille Électrique, oui, c'est plutôt une structure. Bah, il se trouve que tous les projets sont collectifs. Il y a en général un porteur de projet, on va dire, celui qui, plutôt un coordinateur, on va l'appeler ça comme ça. Donc le Ludovic, lui, il coordonne artistiquement, etc., au niveau des plannings et puis sur les grandes directions, sur les contacts aussi de diffusion, etc. Voilà, tout ce qui est un peu le dossier, c'est lui. L'administration, ça, on la délègue après dans un deuxième temps, mais disons que déjà sur la façon de fonctionner, parce que le projet, il y a la conception du projet, mais il y a aussi tous les contacts qu'il faut établir avec les diffuseurs. Ou toutes les institutions ou les lieux qui peuvent permettre la réalisation du projet et puis de le donner au public. Ouais. Donc tout ça, c'est un volant d'activité non négligeable.
Bah oui.
Donc voilà, en gros, il y a une tête qui s'occupe de ça, et puis après le travail artistique, il est mis en commun sur la table, et chacun apporte les modifications qu'il faut, et puis on réalise ensemble l'objet final. Et l'oreille électrique, donc c'est plutôt ça, c'est pas vraiment collectif, c'est pas qu'on est tous en train de porter un projet commun, c'est une structure avec une cellule de production efficace et qui permet aux porteurs de projet de donner un cadre administratif finalement aux porteurs de projet et aux projets collectifs. Aux différents projets collectifs. Je ne sais pas si je suis bien clair.
Oui, moi je comprends.
Voilà.
Est-ce que le projet Émir, la compagnie Bar Philips, fait partie de ce collectif ou non? C'est encore un autre.
Non, ben on a beaucoup de liens, bien
oui,
sûr.
Oui, oui.
Parce qu'avec l'oreille électrique, on fait de la production, là, comme j'expliquais, avec Déviation ou l'électrique pour part. Mais on fait aussi de la diffusion, c'est-à-dire qu'on organise un festival qu'on appelle le Microfestival, qui est un festival basé sur les petites formes expérimentales. À Montpellier, ça c'est en février, chaque année. Et on organise aussi des concerts dans un petit lieu avec lequel on est partenaire, qui s'appelle La Baignoire à Montpellier, qui est un lieu de théâtre contemporain.
D'accord.
Et voilà, ça fait y a, on va dire, deux activités. Et dans le cadre de l'activité de diffusion, bien sûr, on crée beaucoup de partenariats avec la compagnie Bar Philips, en invitant, bon, on a évidemment invité Bar à venir jouer, mais aussi des membres du collectif à venir se produire en solo ou en duo dans différents cadres.
D'accord, d'accord. Alors peut-être Bar Philips, pour nos éditeurs, expliquer qui c'est. C'est quand même un grand nom du jazz qui n'est pas tout à fait jeune.
Non.
Je pense qu'il est né en 34, hein, il me semble avoir vu ça hier. C'est...
En tout cas, il a fait ses 80 ans l'année dernière.
Ouais, voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Donc un contrebassiste.
Oui, contrebassiste, bah, extrêmement important. Il n'y a pas très longtemps, il y avait une réunion comme ça de professionnels et donc on était plusieurs musiciens à témoigner. Mmh. Et Bar Philips était dans toutes les bouches. Donc c'est quelqu'un, tout le monde a creusé sa route, en tout cas en France, parce qu'il est installé en France, on a cette chance-là. Mmh. Évidemment, ça a été, quand je parlais tout à l'heure de la table rase, là, le moment où j'ai changé de cap, bah, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important. Je l'ai rencontré à ce moment-là.
Oui. Oui, c'est ça, c'est ma question en fait.
Voilà, il y a une quinzaine d'années. Donc, de mon côté, j'avais déjà commencé à défricher des choses. Et puis, sa rencontre a vraiment ouvert beaucoup de voies et puis consolidé énormément beaucoup de choses.
Mmh. Et donc, c'est ta rencontre. Il y a ta rencontre et bien après, la création de la compagnie, c'est après.
Oui, c'est bien après, c'est 10 ans après.
Ah oui, carrément.
Oui, oui. Oui, il y a 10 ans, Bar, je l'avais fait intervenir, à l'époque j'intervenais dans un centre de formation pour adultes, pour la musique, et j'avais un atelier qui s'appelait Le Collectif, c'était l'idée de faire justement un endroit de création transversale entre plusieurs arts, et j'avais proposé un projet autour de la danse, enfin la musique et le geste, on va dire, c'était plus large que simplement la danse, et j'avais demander à Bard s'il voulait bien intervenir dans ce projet-là pour l'amener plus loin que ce que j'aurais pu l'amener moi-même à l'époque. Mmh. Et donc voilà, toute une saison, ça, on a travaillé tous ensemble avec Bard, aussi avec un chorégraphe et un groupe de stagiaires adultes. Mmh. Et voilà, toute une saison qu'on a pu vraiment lier connaissance à ce moment-là. Et à partir du moment où le projet s'est terminé, bah le Bar m'a dit « Écoute, le téléphone est ouvert, la porte est ouverte, tu viens quand tu veux. » Et comme ça, régulièrement, quand j'étais un peu dans des impasses où je me posais des questions musicalement, comment faire ci, comment faire ça, bah je l'appelais ou j'allais le voir et puis ça décoinçait un tas de choses. Et par la suite, 10 ans plus tard, on lui a demandé d'organiser des rencontres improvisées dans son village, un lieu qui avait été créé. Et progressivement, c'était un appel lancé à tous les improvisateurs. Et puis, petit à petit, il y a un noyau qui s'est constitué avec 2, 3, 4. Et puis, petit à petit, on s'est retrouvé à une petite dizaine, 9 exactement, avec Bar. Donc, 8 plus Bar. Les jours où il organisait ces rencontres improvisées, nous, on venait... Pour l'après-midi, on passait un après-midi tous les 9 à improviser. Parfois on n'improvisait pas, parfois on improvisait. Et puis le soir, c'était ouverture au public. Et Bar faisait un petit peu le monsieur loyal, il distribuait les rôles.
Ah oui, d'accord.
Tenez, là, faisons un truc que les cordes, là, faisons, tiens, toi et toi, vous voulez faire quelque chose, allez, hop. Ça se faisait comme ça. Et ça, pendant quelques années. Et puis quand, comme tous les lieux, des fois ça s'arrête, surtout, très difficile de maintenir des lieux... avec des propositions comme celle-là. Donc ça s'est terminé, mais nous on a décidé de continuer. Et là, la compagnie, c'est devenu d'abord l'ensemble de musiciens improvisateurs en résidence.
Ouais.
Et puis par la suite, ça se confirmant, on a été obligé de créer une entité juridique pour porter ça, donc pour pouvoir aller jouer au Mans, dans les festivals, etc., pour tous les trucs pratiques professionnels.
Ouais, d'accord, ouais. Alors, j'ai vu que vous aviez adapté une pièce, La vie est un songe, La vida es sueño, d'une pièce de théâtre écrite au XVIIe siècle par Calderón de la Barca. Je ne connais pas du tout. Mais, et alors, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est que vous interprétez cette pièce, si j'ai bien compris, sans vous soucier de raconter l'histoire. Mais par contre, vous êtes quand même des personnages. Ça.
Oui. C'est une proposition de Bar assez osée et très, enfin, je trouve ça finalement assez révolutionnaire et sans l'être, mais au fond, ça allait dans la pratique, ça. Bon, enfin bref. L'idée de bar, c'était de dire, voilà, on est neuf, donc je vais distribuer les rôles de la pièce à chacun de vous. C'est lui qui a choisi, qui a imposé d'une certaine façon, mais en tout cas, pour mon cas, c'était, enfin, il est tombé juste, quoi. Il y avait pas de, ça ne m'a pas posé de problème du tout. Et donc, les différents personnages ont été distribués aux différents membres du groupe. Et la structure de la pièce a servi finalement de structure à la pièce. Et ça se voulait un opéra, donc tout de suite avec l'idée qu'on jouait un personnage vraiment. C'était pas qu'on utilisait les personnages à moitié, non. Donc il y a un travail de costume, un travail de scénographie. De scénographie, non, puisque le décor, c'est seulement les instruments, il n'y a pas de décor sur scène. Mais un travail d'espace. Et un travail de langage sur l'instrument pour que chaque instrument développe un langage particulier en fonction du personnage.
Ah oui, d'accord, comme un texte.
Comme un texte. Donc il y a des personnages qui sont en action sur la scène, qui se déplacent selon les modalités de la scène. Tout ça de façon improvisée, évidemment, à force on a des marquages. Il y a des choses qui reviennent, mais on a une très très grande liberté. Et les autres, en fait, constituent finalement la fosse d'orchestre d'une certaine façon. Donc on est en bord de scène, donc toujours pas dans l'action propre de la pièce, mais on est toujours en action musicale et d'écoute. Et on crée une sorte d'ambiance, d'accompagnement de la scène qui se passe.
Oui. Pourtant, le public ne comprend rien s'il ne connaît pas l'histoire.
Oui, exactement. Alors, si on connaît l'histoire, on arrive à très bien suivre. Par exemple, on avait travaillé ça à la fonderie au Mans, et on avait donné à l'époque donc une étape de notre travail, et il y avait toute l'équipe de François Tanguy qui était là. Donc, ce sont des gens de théâtre qui connaissent évidemment très très bien ça. Et pour eux, c'était évident que c'était voilà. Et puis même c'était très drôle pour eux parce que mais en fait vous faites ce que nous on rêve de faire dans le théâtre, c'est-à-dire que le texte n'existe plus, qu'il n'y ait plus que de l'action pure, etc., de l'émotion pure.
Est-ce que tu as un extrait de...
Alors, j'ai pas d'extrait de l'opéra. Y a un disque qui est en préparation qui va bientôt sortir chez Natto. Par contre, j'ai amené un extrait de l'ensemble. Juste avant ce projet-là, on a fait une autre création qui s'appelle Evertide. Et ce disque, on a fait la création au Mans, au Festival du Mans. On a donc fait quatre longues pièces de 14, 15, 16 minutes chacune. Ça a donné un disque. Voilà, et donc j'ai amené ça parce que c'était masterisé.
On écoute.
Ouais.
Oh!
Voilà, c'était l'ensemble Émir, la compagnie Bar Philips, avec Patrice Soletti, donc à la guitare.
Mais pas que.
Pas que, non, oui.
Il y a Émilie Lesbro dedans, Catherine Jonio, Bar Philips, bien sûr, François Rossi, batterie, Charles Fichot, batterie. En fait, c'est marrant parce que c'est un groupe en miroir. Emmanuel Kremer, violoncelle, Laurent Charles, sax, et Lionel Garcin, sax.
Je voulais te demander, je voulais parler du Grimm, peut-être on y reviendra après, mais le Grimm de Marseille, Jean-Marc Montera, tu as des liens avec ce collectif-là également ?
Alors, avec le collectif directement, non, mais par contre, c'est un lieu important pour nous parce qu'il nous a accueillis à plusieurs reprises, en résidence, pour élaborer justement nos. Continuer à être dans le processus, dans la dynamique du travail, mais en même temps, ça nous a permis d'enregistrer, des séances de travail qui ont donné un disque qu'on a produit sur un petit label marseillais qui s'appelle Alambic Music.
Ah oui. Et c'est donc le disque de Electric ?
Electric Pop Art Ensemble, ça c'était c'était une période de Electric Pop Art Ensemble où on travaillait sur un spectacle de danse.
D'accord, ouais.
qui s'appelait Extension. Et donc l'idée c'était de détourner l'idée, je parlais tout à l'heure de Les Tripots Partent Ensemble, où c'était l'idée de détourner les codes de la pop et du rock, etc., puis d'essayer de l'amener un petit peu ailleurs, de décaler un peu l'affaire. Mmh. Et là c'était l'idée de, partant de ce travail là qu'on avait fait dans une précédente création, de le rendre encore plus abstrait pour pouvoir s'intégrer à une rencontre avec la danse contemporaine.
Ah oui.
Donc on a fait une semaine de résidence au Grimm. Mmh. Où j'ai invité Boris Darlet, donc qui est ingénieur du son, qui va par la suite intégrer Les Tripots Partent Ensemble. Mais à cette époque-là, je lui avais demandé de venir pour diffuser le son, c'est-à-dire capter les sons de guitare, les transformer, les rediffuser, voilà, qui est une sorte d'aller-retour comme ça, et puis pour complètement brouiller les pistes sur l'émission du son.
D'accord. On va écouter plutôt en fin d'émission Electric Pop Art, puisque c'est l'actualité, on va dire, puisqu'il y a le concert de ce soir. Peut-être je voulais signaler, moi, qu'il y a le festival Nuit d'hiver qui a débuté mercredi, organisé par le Grimm. Et donc ça se trouve sur Internet facilement, Nuit d'hiver, le Grimm. Et ce que je voulais te demander, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est, il me semble qu'il y a, alors nous on est loin ici, mais il y a une effervescence, j'ai l'impression, à Montpellier, Marseille, autour de lieux, autour de, enfin, on a parlé de plusieurs collectifs là. J'aimerais savoir comment ça se passe au niveau de des collectivités territoriales et tout ça, et dans le contexte actuel, est-ce que vous êtes serein?
Non, pas du tout. Ouais. On peut pas. Qui peut l'être en ce moment de ce point de vue-là, quoi? Non. Ce qui est annoncé, c'est une coupe franche dans les budgets de la culture les années. Donc l'année 2016, ça va peut-être maintenu, mais on nous annonce déjà pour 2017 de grandes baisses. Donc les lieux de diffusion ont moins d'argent pour entre guillemets nous acheter.
Il y en a pas mal des lieux pourtant.
Il y a beaucoup, oui, il y a beaucoup de lieux qui ont fermé depuis deux ans. Non, des festivals qui ont périclité, des endroits qui faisaient un concert par semaine ou deux concerts par semaine n'en font plus que trois par mois. Oui, il y a quand même. Alors sur le papier comme ça, il semble qu'il y a beaucoup d'activités parce qu'il y a des masterclass, il y a des invités, il y a des résidences, des machins.
Mais je pense à des lieux, la Friche Belle de Mai.
Bien sûr.
J'ai plein de lieux.
Oui, mais si on voulait comparer le nombre de concerts réels d'aujourd'hui avec le nombre de concerts réels il y a 6 ou 7 ans. Je ne parle pas d'il y a 10 ans, parce que là, c'est carrément, ça a sûrement diminué.
Ah,
enfin, je n'ai pas vérifié, je dis des chiffres au plus, c'est un sentiment, mais en tout cas, il y a une diminution, c'est clair.
Bon, en tout cas, il y avait une, mais,
par
une effervescence
contre,
quand même.
Il y a toujours une effervescence artistique, ça, pour ça existe toujours. Mais oui, beaucoup moins de moyens. Moins de moyens.
Okay.
Mais en même temps, on invente d'autres formes de se produire. D'autres formes de coproduire, c'est pas que négatif. Par contre, c'est sûr que les pouvoirs publics se retirent, et ça c'est très inquiétant.
Oui, comme on dit, ça va peut-être pas s'arranger. Je voulais parler de ton solo de guitare, puisque tu vas nous faire un solo de guitare. Est-ce que le Encore Vivant, c'est le nom du projet?
Oui.
Encore, alors peut-être faut expliquer l'orthographe.
Oui, alors c'est encore, j'ai fait un petit jeu de mots.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est encore CORPS en un seul mot.
Pourquoi, oui.
C'est lié au geste. Je parlais tout à l'heure du geste. Ouais. C'est-à-dire que on retrouve ça avec Sai. C'est par cette idée d'interroger le reste que j'ai rencontré, le geste, pardon, que j'ai rencontré par Philips.
Ouais.
Et c'est vrai que le geste produit le son autant que la pensée. Et même la danse, c'est de la pensée gestuelle.
Ouais.
Il y a ce lien. Essayer de retrouver une sorte de cohésion globale à la musique, et pas seulement jouer les notes, les bonnes notes. Comme c'est bien écrit sur la partition, ce qui est très bien. C'est pas du tout. Je me pose pas en critique par rapport à ça. Je pose pas les choses. Mais moi, dans ma démarche, j'avais besoin d'affirmer ça.
Mmh. Alors je vois qu'il y a pas mal d'effets, je voulais t'interroger là-dessus, ton choix des effets, comment ça se passe, est-ce que c'est fixe, est-ce que c'est immuable ou ça évolue
Oui, ça c'est le résultat d'une lente évolution. Il se trouve que je me suis fixé mais bon non, ça, je dis ça, mais en fait ça a tendance à se développer. Disons que je me suis limité à un moment donné à un chaînage qui me semblait efficace et qui me permettait d'explorer pas mal de palettes, une palette assez large. Et puis voilà, donc là c'est on va dire le set de base, mais il y a toujours une pédale qui se remplace par une autre. Il y en a une qui se casse, donc du coup il faut en acheter une autre, elle est un peu différente, ça a conduit ailleurs.
Bah on va te laisser te mettre en place et écouter un guitariste qui, j'imagine, qui t'a influencé aussi.
Ah oui. D'une façon que Fred Friis, mais qui, évidemment, je suis extrêmement admiratif et voilà de l'instrumentiste et du musicien quoi dans sa globalité, c'est Marc Ribot.
Voilà, Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, et nous allons écouter, dans direct de nos studios, Patrice Soletti à la guitare électrique.
Thank you. Perturbé par le solo, non, ça, ça sonne pas, ça sonne bien. Salut. Ah bon,
ça fait, ouais.
Bon, bah c'est bien. Ça fait.
Je cherche le morceau qu'on va écouter.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Arrêts Libres. On va faire, après avoir écouté ce merveilleux solo de John Zorn et avant de Patrice Soletti, quelques annonces. Alors justement, ce soir, bah, Patrice sera avec son ensemble, avec son groupe Electric Pop Art Ensemble, au Cirque Électrique. C'est place du Maquis de Vercors, dans le 20e arrondissement de Paris. Ça coûte 10 euros. Et c'est, je ne sais plus l'heure. C'est à quelle heure, Patrice ? Ce soir, c'est à quelle heure ?
20h30, c'est un gros plateau.
Voilà, 20h30. Et il y a Trip. Voilà. Avec Jean-Brice Godet à la clarinette, Marco Carizimine à la contrebasse, Julien Chamla à la batterie. C'est donc ce soir à 20h30 au Cirque Électrique, place du Maquis de Vercors. Anti-club, oui. 10 euros. Et alors ce soir également, peut-être Laurent, tu as des choses à annoncer hein, pour ce soir.
Trois concerts.
Oh là,
attention, il y a pléthore d'événements intéressants ce soir. À 20h à l'atelier du plateau, 5 rue du plateau dans le 19e, Durio Zibetinus, Quentin Biardot, saxophone, Valentin Sicaldi, violoncelle qui invite le contrebassiste Benjamin Duboc. Donc ça c'est à 20h et c'est 12 euros à l'atelier du plateau ce soir. Encore ce soir à 20h30, par ordre chronologique, à l'atelier Polonceau, 47 rue Polonceau, dans le 18e. D'abord un solo de Gianni Caserotto à la guitare, et puis un trio, Louis Laurent, trompette, Sébastien Bellia, contrebasse, et Anna Slingens à la batterie. C'est 10 euros à 20h30 à l'atelier Polonceau. Et puis au Milor à 21h, 78 boulevard de Belleville dans le 20e arrondissement aussi. C'est le détail qui programme d'abord le trio Jérémy Gustin, batterie, Émeric Avis, trompette, Julien Després, guitare. Et ensuite, Benjamin Pagier à la basse avec Yann Joussin à la batterie. C'est 5€ à 21h ce soir au Milor. Voilà.
Alors, également ce soir à 19h30 par contre, c'est à Publico, Librairie Publico, rencontre autour du journal El Canero. Proposition lancée par Fernando Barcenas Castillo, prisonnier anarchiste incarcéré à Mexico. En prison, il a imaginé et lancé un journal alternatif. Il s'agit d'une communication produite par des prisonniers et prisonnières qui se trouvent derrière les barreaux de plusieurs geôles de la capitale. Le projet cherche à élargir l'échange de communication à d'autres lieux en dehors de la ville de Mexico. Ce soir, à la Librairie Publico, 140...
C'est tous des toxicos, Mexico.
Non, je ne suis pas sûr. Là, c'est des prisonniers en l'occurrence. Donc, Librairie Publico, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement de Paris, à 19h30. Et c'est entrée libre, bien sûr. Demain, au même endroit, c'est à 16h30, film Benjamin Perret, poète, c'est-à-dire révolutionnaire, c'est le nom du film. Projection et débat avec Rémy Ricordo, réalisateur du film. En retraçant ses divers engagements politiques et politiques qui ont été une constante de toute sa vie, ce film se propose de faire redécouvrir Benjamin Perret, réfractaire à l'autorité, quelle qu'elle soit. Les combats qu'il a menés dans le monde des idées et celui de la politique au service d'une conception de l'émancipation humaine qui supposait à ses yeux la liberté la plus absolue, celle de l'expression sensible comme celle concomitante de la pensée critique. C'est demain, samedi 12 décembre, à 16h30, toujours à Publico. Mardi 15 décembre 2015, les excellents Eric M. et Martin Brandelmeier. Alors Eric M. électronique, DJ, et Martin Brandelmeier, fabuleux batteur de Radian ou de Trappiste par exemple, aux instants chavirés. Alors avec en première partie Meryl Hamp qui joue de l'électronique. C'est aux instants chavirés, 7 rue Richard Lenoir à Montreuil. 12€, plein tarif, 10€ pré-vente et montreuillois, 8€. Abonné à Instant Chaviré. Nous y serons, Jacques. Hein. Toi, oui, en tant que Montreuil, tu y seras forcément. Mercredi 16 septembre à 20h, projection débat. Le ciné de la Commune, projection de la troisième partie du film La Commune de Peter Watkins, évidemment. Donc c'est à Publico, mercredi 16 décembre à 20h. Jeudi 17 décembre à 19h30, toujours à Publico, rencontre et débat avec Anne Steiner autour de son livre Le temps de la révolte, une histoire en carte postale des luttes sociales à la belle époque. Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, les conflits sociaux concernant le temps de travail, le salaire, la reconnaissance des sections syndicales se multiplient dans toute la France. À l'âpreté de ces combats, souvent comparés aux jacqueries d'antan, répond la brutalité de la répression. Ces années de guerre sociale correspondent à l'âge d'or de la carte postale dont la production explose entre 1900 et 1914. Mettant en regard récits et images, ce livre nous plonge au cœur de ces événements. Donc, cette rencontre avec Anne Steiner aura lieu le jeudi 17 décembre à 19h30 au 145 rue Amelot dans le 11e arrondissement, métro République Fille du Calvaire Oberkampf. Et c'est à 19h30, entrée libre. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Est-ce qu'on a, par exemple, je ne sais pas moi, les dimanches de l'impro,
le 99, vendredi 18 décembre.
Oui, voilà.
Voilà, merci de me laisser le micro. Voilà, vendredi 18 décembre au 99, il y aura donc en fait le mur du fond avec Francis Larvor et électroacoustique et le fameux poète Patrice Cazel ainsi que le saxophoniste Jacques Pocha. Et puis il y aura aussi un fabuleux platiniste qui s'appelle Christophe S, mais dont le nom de scène c'est Strotter. Oui, voilà. Donc c'est à 20h30 vendredi prochain, 18 décembre, ne ratez pas ça.
Et voilà, et c'est Jacques Pocha lui-même qui organise et qui vous annonce ça hein, maintenant. Et Strotter est un drôle de platiniste, effectivement, avec plein d'objets sur ses tourne-disques. T'as d'autres trucs, Laurent, à annoncer? Ah bah, peut-être, si...
Mais je viens de temps en temps, j'en parle.
Oui. peut-être. Non, excusez-moi de vous déranger. je vais savoir les. Bah, Patrice, pour terminer, on va écouter enfin Electric Pop Art Ensemble, qui aura lieu, dont on pourra voir la prestation ce soir en concert au Cirque Électrique. Mais je voulais te demander s'il y a d'autres dates de prévues.
Après, il faudra attendre le mois de février.
Ah, d'accord.
Ouais. Au mois de février, on sera dans le sud. Ouais. On va être en résidence à Vauvert. Donc un haut lieu du Gard connu pour ses résultats électoraux faramineux. Et donc je suis très heureux d'intervenir là, non pas pour cette raison, mais parce qu'on a, on va être en résidence dans le collège et qu'il y a une équipe pédagogique qui est vraiment extra. Et je pense, voilà, je suis heureux aussi de, c'est une façon de diffuser notre boulot aussi et toucher des publics qui viennent pas au concert, quoi.
Oui,
et on jouera aussi à Perpignan, ouais, au Festival Jazz Zèbre. Ouais. Enfin, dans le cadre de la saison du Festival Jazz Zèbre, et à l'AJMI, qui est un lieu de jazz, une smack jazz à Avignon.
D'accord. Et avec tes autres formations, je pense à Émir.
Ah, Émir, oui. Alors, la semaine prochaine, on joue dans la saison du Mans. À la Fonderie, on va jouer justement l'opéra improvisé La vie est songe.
D'accord. Et les autres formations, non?
Là, ça va être un peu la pause, la pause de Noël.
L'hibernation. Ouais. Ouais. Ce à quoi je pensais quand tu parlais de collège et tout ça, c'est que nous rencontrâmes jadis, nous fûmes collègues, oui. Et tu enseignais la guitare, je crois.
Ouais. Oui. Voilà. Bah, c'était l'époque où je finissais, je travaillais pour obtenir mes diplômes, donc j'étais vraiment dans le jazz à l'époque.
Ah oui, c'est ça, c'est ce que je me dis, mais à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient
Ouais, je faisais vraiment, j'essayais de jouer des standards. D'ailleurs, j'aime toujours cette musique, hein, encore une fois, je ne mets pas du tout les choses en opposition, c'est juste des choix de pertinence personnelle, de se sentir à sa place quelque part, quoi.
Et après, je crois qu'on s'était croisés à Fruits de Mer, non?
Oui.
Il me semble, collègue de Montrouge à Fruits de Mer, oui, c'était marrant. Ben, on termine avec Electric Pop Art Ensemble, merci beaucoup Patrice d'être venu. Et puis à bientôt alors.
Oui.
Alors la semaine prochaine, oui, annonce-le Laurent, vas-y.
Donc la semaine prochaine, nous recevons Camille et Benjamin pour nous parler du collectif MIR. Thank you.
C'est par où? La mer?